commence avec le premier sujet de ce journal, la planète Terre a une nouvelle lune.
Oui, une mini-lune qui orbite autour de la Terre. Le 15 février, les astronomes du Catalina Sky Survey en Arizona ont détecté cet objet. Mardi, le centre des planètes mineures a confirmé cette découverte. L'objet a été baptisé 2020 CD3. Il est peu lumineux et il mesure environ 2 mètres de diamètre. Une mini-lune grosse comme une voiture. Selon les chercheurs, il s'agit d'un astéroïde qui a été capturé par la gravité de notre planète lors de son passage. Et il orbiterait autour du système Terre-Lune depuis 3 ans. Il fait le tour de notre planète en 47 jours sur une large orbite de forme ovale. Ce n'est pas la première fois que ce phénomène se produit. En 2006, un astéroïde de 4 mètres de large est resté en orbite du système Terre-Lune avant de s'en échapper en 2007. Ce sont des phénomènes temporaires. Les jours de notre nouvelle mini-lune sont donc comptés. Maud Langlois est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille au CRAL, le centre de recherche astrophysique de Lyon.
J'ai regardé un petit peu les statistiques, ça arrive quand même de temps en temps. C'est difficile de prédire, mais il y a des plus petits objets qu'on ne voit pas. Et du coup, même sans le savoir, ça arrive après. Là, ces petits objets dont on parle, en fait, ils vont soit s'auto-détruire sur la Terre, soit être éjectés à nouveau dans l'espace, en fait, après être capturés, mais après des périodes qui sont pas forcément très longues. Et on est capable, en le suivant à différentes périodes, d'estimer son orbite. Quelle est son orbite ? Après, ça s'est associé finalement l'orbite et la prédiction qu'on peut faire pour savoir de combien de temps il va rester autour de notre Terre, ça dépend de la gravitation du système Terre-Lune et même au-delà. Et là, on peut aussi faire des calculs pour estimer son orbite. Sinon, on connaît juste donc sa trajectoire et on voit qu'il est pas très brillant dans le ciel, donc c'était une magnitude autour de 20. Et sa brillance, là, elle est vue, c'est juste la lumière du soleil qui se réfléchit sur lui et qui nous revient. Donc comme cette lumière, elle est assez faible, on comprend bien qu'il est très petit, en fait.
Au moment où nous parlons, cette mini-lune est déjà en train de s'éloigner du système Terre-Lune, hein, si je comprends bien.
Elle est encore en orbite autour du système Terre-Lune. Et après, comme il y a la Lune aussi qui perturbe l'orbite, finalement, l'orbite, elle va finir par être éjectée. Mais ça, c'était plutôt prévu d'après les calculs autour d'avril, il me semble.
Et dans le Journal des Sciences, cette semaine, nous avons parlé de la découverte du plus ancien métissage humain, des premiers résultats de la mission InSight sur Mars, d'un nouvel antibiotique créé avec l'aide d'une intelligence artificielle et en physique fondamentale de l'observation d'un nouvel état de la lumière. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha en ultra bref.
Cette semaine, les scientifiques ont percé le mystère de la migration des baleines. Ce serait pour maintenir une peau saine. Les baleines à bosse, comme les cachalots et les orques, parcourent jusqu'à 18 000 km chaque année et naviguent entre des eaux polaires et des eaux tropicales. Les chercheurs ont découvert que ces différences de température leur permettent de muer. Régénérer les cellules de la peau fait partie des besoins physiologiques importants. La mue est une défense de première ligne contre les maladies et les bactéries. Une nouvelle espèce de loup a été découverte en Himalaya. Les loups du Népal et des hauts plateaux tibétains se sont différenciés des loups gris et se sont adaptés génétiquement pour vivre en haute altitude. Une mutation génétique pour survivre au manque d'oxygène. Considéré comme un nuisible dans la région, cette espèce est en danger critique d'extinction. Et enfin, la découverte cette semaine dans le nord de la Chine de Proterocladus anticus, un fossile d'algue verte vieux d'un milliard d'années. C'est le fossile végétal le plus ancien à ce jour. Le spécimen est très similaire aux algues contemporaines. Elle pourrait être l'ancêtre commun de toutes les plantes vertes apparues 500 millions d'années plus tard.
On passe à présent au journal de la science-fiction. Selon un article paru dans The Conversation, il serait facile de pirater les satellites de la constellation Starlink de SpaceX.
Et plus de 200 satellites de SpaceX orbitent autour de notre planète et la compagnie d'Elon Musk prévoit d'en envoyer 42 000 au cours de la prochaine décennie. Une méga constellation pour fournir un accès Internet partout dans le monde. La particularité de ces petits CubeSats, c'est qu'ils sont peu coûteux. Ils sont fabriqués avec des technologies standards et de nombreux composants utilisent l'open source. Dans cet article, le chercheur souligne les failles et les vulnérabilités de ces systèmes. Selon lui, il manque des normes et des réglementations en matière de cybersécurité pour les satellites commerciaux. Il rappelle que dans le passé, des satellites ont déjà été hackés et il craint que ceux de SpaceX puissent l'être facilement. De plus, les CubeSats sont équipés de propulseurs pour être pilotés à distance. Ils pourraient donc être détournés pour servir d'armes ou de projectiles. Quelles sont donc les normes et les limites de la cybersécurité de l'Internet de l'espace ? Martin Dieter est responsable du Centre de la sécurité de l'Agence spatiale européenne.
Chaque système aujourd'hui se veut rapide sur le marché. Chaque système gagne au niveau de sa rentabilité en utilisant des composantes moins chères. L'article se base surtout sur une absence de régulation. Je pense que c'est un des arguments les plus importants. Mais certes, il n'y a peut-être pas un règlement international sur la cybersécurité dans l'espace. Toujours est-il que la cybersécurité, finalement, c'est des éléments de la sécurité informatique, on peut dire, des réseaux, des échanges de données, des implémentations informatiques et de la protection des données. Et avec cela, on capte une bonne partie du sujet. Donc, il n'y a pas vacuum par rapport à un règlement. Et des systèmes de cryptage des liens, des systèmes de liens entre stations et satellites uniquement là où ce lien est prévu, parce que c'est là où les stations sont placées. Tout ce genre de protections sont en place pour éviter que, tout simplement, quelqu'un plante une antenne dans son jardin et commence à communiquer. Maintenant, un système peut toujours être hacké. Le système infaillible n'existe pas. Le satellite, déjà, en soi, est un système informatique volant. Nous, de notre côté, on met en place un système d'appréciation de risques et des menaces. Et ça comprend le lien entre le sol et le satellite et l'inverse. Ça comprend ce qu'on appelle la supply chain, donc la providence et le contrôle des composants utilisés dans les systèmes. Ensuite, tout système reste vulnérable.
En bref, la réserve mondiale de semences du Svalbard, l'arche de Noé végétale en Arctique, a enrichi ses fonds de réserve.
Et on parle aussi d'une voûte apocalyptique. Cette chambre forte enfouie dans une montagne norvégienne a été construite en 2008 et elle préserve des centaines de semences d'espèces végétales à travers le monde. Le but est de conserver, à moins 18 degrés, des échantillons de plantes menacées d'extinction. La réserve vient de recevoir plus de 60 000 échantillons de semences qui proviennent du monde entier. Des graines d'oignons du Brésil, des haricots de Goa d'Asie centrale et des fleurs sauvages britanniques par exemple. Le grenier conserve désormais plus d'un million de variétés végétales.
Côté fiction, le tournage de Jurassic World 3 a commencé.
Le réalisateur Colin Trevorrow a également annoncé le titre de ce troisième et ultime volet, Dominion, Domination en français. On ne sait pas grand chose du blockbuster, excepté son casting, Chris Pratt, mais aussi tous les acteurs de Jurassic Park d'origine sont à nouveau réunis. Omar Sy revient également dans la franchise et on connaît également sa date de sortie en France, le 9 juin 2021.
Et enfin, en bref, Disney lance une nouvelle saga littéraire, Star Wars.
Une série de romans et de comics chez Marvel qui s'intitule The High Republic. L'univers de cette saga se déroule 200 ans dans le passé, avant l'ère Skywalker et les événements de la menace fantôme. Cette série s'intéressera en particulier à l'âge d'or de la République et à ses Jedi. Le premier volume, Light of the Jedi, sortira en août. Et pour ce qui est de l'avenir de Star Wars sur les écrans, au total, 5 films seraient désormais en projet.
Et comme chaque vendredi, on termine ce journal avec la rubrique des Science improbable. Aujourd'hui, selon une étude parue dans The Royal Society Publishing, les vaches aussi traversent des crises d'adolescence.
Et des chercheurs canadiens se sont intéressés à la puberté des vaches et leur ont fait passer des tests de personnalité à différentes étapes de leur vie. Alors, des tests de personnalité pour bovins, cela consiste à réunir des vaches dans une arène et à observer comment elles réagissent face à des objets nouveaux ou comment elles se comportent quand elles sont seules. Les chercheurs constatent qu'à l'âge de 12 mois, les veaux produisent plus d'hormones et se montrent plus intrépides et plus agressifs. L'étude parle d'instabilité émotionnelle chez le veau. Il se stabilise ensuite à l'âge de 2 ans, l'âge adulte des bovins.
Merci beaucoup. Merci. À lundi.